Donc, c'est Jean 16. Donc, rappelons que ce sont des dernières paroles avant la crucifixion, juste avant qu'il fasse cette merveilleuse prière sacerdotale qui est le chapitre 17. Mais chapitre 16, donc, c'est là où il commence à résumer toute chose. Et il faut dire aussi que ça suit la même fil de pensée qu'on a terminé la semaine dernière. C'est-à-dire, c'est cette haine que le monde a contre toute personne qui se lève pour le nom de Christ. Toute personne qui s'est associée à Jésus sera haïe du monde. Et nous, nous comprenons ceci beaucoup mieux que nous avons toute l'histoire derrière nous, que eux, ils n'avaient pas encore. Et aussi, pour eux, il y avait toujours cette idée de gloire, de, parce que normalement, si le Messie règne, il y a le lion qui s'assoit avec l'agneau, il y a la paix sur terre, il y a toutes ces nations qui viennent pour adorer à Jérusalem. Donc, il n'y a pas de place pour que les gens les haïssent. Enfin, c'est un peu déplacé, c'est bizarre. Et c'est avec ceci en tête que nous commençons verset 1. Je vous ai parlé ainsi, donc de toutes ces déceptions, de tous ces dangers, en fait, pour que vous ne soyez pas scandalisés. Et ce mot « scandalisé », en fait, ça peut dire aussi une pierre d'achoppement, un obstacle à leur foi. Parce que il y avait toujours cette idée que Jésus, le Messie, règne en victoire et en puissance et tout. Ils avaient raison parce qu'effectivement, il y a ça. Mais ce n'était pas pour le moment. Et donc, ce qu'ils ne voulaient pas, c'est que quand les choses arrivent, qu'ils ne soient déçus jusqu'à la point de tomber. Et de tomber pour ne jamais revenir. C'est ça ce qu'il veut dire. Il ne peut pas qu'ils soient scandalisés de cette manière-là, car ils vous excluront des synagogues. Et ça, c'est totalement à l'opposé de ce qui doit être, parce que c'est le Messie. Donc, être exclu des synagogues, ça n'a pas beaucoup de sens à leurs yeux, parce que justement, ça doit être tout le contraire. Eux, ils devaient être les intervenants les plus recherchés dans les synagogues, parce que ils ont vécu, ils ont été enseignés par le Messie lui-même. Ces idées-là doivent être changées s'ils vont justement réussir ou bien survivre dans le monde à venir. Et il dit même, l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Ils vous feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, il le dit. Nous voyons que dans le livre des Actes, les chefs religieux, ils s'en prennent violemment contre les disciples. On arrive à chapitre 7 et 8 et on voit le premier martyr dans l'église en Actes. Et c'était simplement un homme, Étienne, qui osait dire la vérité et puis on l'a lapidé sur le champ. Et il pensait offrir à Dieu en culte. C'est intéressant, ils sont tombés aussi loin, finalement. On parlait de pierre d'achoppement, savant que Jésus est la pierre angulaire. Et, donc c'est lui qui ne l'accepte pas, ce pierre principal, pierre de l'angle, bah, tout le bâtiment s'écroule. Et c'est pour ça, justement, qu'ils arrivent à des choses pareilles, à même exécuter ceux qui doivent écouter. Parce qu'ils ont rejeté la pierre angulaire, qui est devenue ce pierre d'achoppement, pierre de scandale. Ils pensent offrir un culte à Dieu. Ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est que le christianisme s'est beaucoup développé par rapport à ça dans le monde non-juif. Parce que, bon, nous connaissons tous l'histoire, par majorité, Israël n'a pas accepté son Messie. Et puis, avec leurs hésitations, leur manque de foi, et tout, finalement, cette merveilleuse nouvelle est allée au-delà de leurs frontières, exactement comme Dieu voulait, pour que le peuple qui n'était pas appelé un peuple devienne le peuple de Dieu, comme il dit en Ésaïe. Et aussi, il y a cette culture, donc, païen qui est dans l'église, chaque église ou chaque branche de l'église dans chaque pays adopte certaines façons de faire de chaque culture. Les églises françaises ont une certaine façon, manière d'être, raison d'être que on ne voit pas dans d'autres pays, par exemple. Parce que ils sont différents. Pourtant, c'est le même Jésus, c'est la même Bible, tout est le même, mais culturellement, les choses sont différentes. Et dans ce monde où l'Église a touché les différentes cultures, nous remarquons par contre qu'il y a cette même chose qui se passe. Par exemple, en Europe, éventuellement, l'Église dominante a dévié pas mal, jusqu'à ce que, quand il y avait des hommes qui se sont levés dans leur rang pour dire « Non, il faut retourner aux écrits et il faut suivre ce que dit la Bible », ces gens-là, ils ont été aussi exécutés. Et les gens qui l'ont fait au nom de Dieu. Ils pensaient rendre un culte à Dieu. Même. Ce sont des choses qui sont passées même ici, avec les Vaudois, par exemple, ou les Cathares. Et de même, quand l'Église a percé dans les endroits où il y avait une autre religion dominante, la confrontation entre la lumière et la ténèbre, et les ténèbres était si farouche que les gens ont exécuté ces missionnaires au nom de leur Dieu, en pensant rendre un culte à Dieu. Et finalement, dans un monde qui est de plus en plus, pas anti-Dieu, mais vide de Dieu, de sa présence, nous voyons une nouvelle type de martyrisation, finalement, contre l'Église. Mais c'est ce même idée, ce même phénomène, parce que c'est le même diable qui régit tout. C'est que, eux, ils pensent rendre pas un culte à Dieu, mais ils pensent faire le bien en faisant taire les chrétiens. C'est la même chose qui se fait. Et ça explique pourquoi ce qu'ils font, parce que c'est ce même diable qui est derrière tout. Et donc Jésus, il a averti ses disciples, que tu crois qu'il nous avertit aussi aujourd'hui de ce qui se passe. Mais la raison pour laquelle ces gens le font, c'est parce que ils n'ont connu ni Dieu le Père, ni Jésus. Parce que s'ils l'avaient connu, ils n'auraient jamais fait pareil. Et donc nous voyons que ces paroles sont toujours justes, parce que c'est la vérité. Et les choses continuent exactement comme il a dit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, il dit, maintenant je dis, je m'en vais, mais personne ne demande où vas-tu, parce que il a répété tellement que, bon, ils ont compris les paroles, peut-être sans vraiment connaître le fond. Et sachant donc qu'il va partir, il y a la déception maintenant qui gagne sur leur cœur. Et donc Jésus, en les regardant, il dit que la tristesse remplit votre cœur. Ils n'ont même plus le désir de demander. Ils ne contestent même pas. Ils voient la déception, le désappointement. Et ils sombrent justement dans ce sentiment de lassitude, de rejet. Et Jésus, il s'adresse à cette émotion, une émotion qui est dangereuse pour tout chrétien, pour tout chrétien. Et ça arrive dans des moments différents, mais souvent quand on a des idées, on pense que certaines choses doivent se passer d'une certaine manière, et puis nous voyons que la réalité est tout autre, il y a des déceptions. Et Jésus, il adresse cette déception dès le début, avant que ça ne grandisse dans leur cœur. Et c'est là où il faut adresser ce problème. Parce que c'est dangereux, il ne faut pas laisser ce poison, et c'est bien un poison, prendre racine dans le cœur. Mais il faut l'arracher tout de suite. Et comment il arrache? En parlant du Saint-Esprit, le Consolateur. Il faut que ça s'arrête, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons tous, je pense, des chrétiens qui ne vont plus à l'église. Parce qu'un jour, ils ont été victimes soit d'un déchirement dans l'église où les gens ont pris parti dans une affaire, et puis ça a déchiré toute l'église, il y avait des choses dites et des disputes, et puis eux, ils étaient confondus dans tout ça, brisés, blessés vraiment, ou bien quelqu'un dans le ministère qui a abandonné justement la bonne voie, et puis ils ont connu cette tristesse, mais au lieu de l'arracher, ils l'ont laissé grandir dans leur cœur. Et finalement, même s'ils appartiennent à Christ, ils sont séparés du troupeau. Et quelque part, l'ennemi a gagné dans leur cœur. Parce que finalement, ils ont accepté un mensonge. Ils vivent dans le désespoir ou la déception, alors que la vie en Christ est tout autre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à arracher ça. Justement, il dit, il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Il est mieux qu'il soit avec vous. Il est le Consolateur, il vous aide. Il sera là à côté de vous. Mais même mieux que Jésus était, parce qu'il était physique, il n'était pas encore en eux. Et pour se rappeler comment ça s'est fait, nous tournons en acte 2, verset 32, excusez-moi. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il l'a reçu du Père, l'Esprit Saint qui avait été promis, il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est-à-dire que Jésus, une fois monté vers le trône, il a reçu comme prix, comme héritage, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, et puis il le donne à l'Église. il répand, l'Église le reçoit ce jour-là, et il est avec nous. Jésus, il est monté, mais le Saint-Esprit habite en nous. Donc, quelque part, nous connaissons une meilleure situation grâce à l'Esprit qui habite en nous. Et si l'Esprit de Dieu vivant habite en nous, ces déceptions et ces moments de tristesse doivent être consolés par le Consolateur. Et donc, il faut faire attention. Et, en continuant le texte, quelle est la consolation? Qu'est-ce qui est de consolatoire, en fait, dans sa venue? Jésus explique plus. Il poursuit, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. C'est l'action du Saint-Esprit dans le monde qui est une consolation aussi, parce que eux, ils sont insultés, excommuniés, mais le Saint-Esprit agit. Et le Saint-Esprit agit même au travers de ces choses. Et ce qui est fort intéressant, c'est que même s'il y a ces violentes réactions contre eux, c'est parce que le Saint-Esprit agit. Et c'est ça ce que nous oublions, justement, quand nous sommes dans ces situations. Parce que ce que nous voyons, c'est qu'il y a une personne en face de moi et nous sommes en conflit. Mais nous oublions la présence puissante du Saint-Esprit et c'est ça qui provoque justement cette mauvaise réaction dans l'autre personne. Et voilà la consolation, c'est que cette présence du Saint-Esprit provoque ça. Mais attention, si le Saint-Esprit fait ça, c'est parce qu'il est en nous. Il est donc le Paraclet, il se tient à côté de nous. Dieu vivant est en nous, il ne nous a pas abandonnés. En fait, c'est la preuve qu'il est là, justement. Parce que eux, ils réagissent violemment contre son action. Le fait qu'il les convainque du péché, de justice et du jugement. Alors, du péché, d'abord, notez qu'il ne dit pas des péchés, mais du péché. Ça, c'est la première chose, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, finalement, qui nous condamne, est le péché d'avoir rejeté Christ. Certes, nous sommes coupables. Certes, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des brebis errantes, chacun suit sa voie. Oui. Et il ne faut qu'un seul péché pour, justement, que nous soyons tous contaminés. Oui. Mais, à la croix, nous pouvons trouver le pardon. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Il faut donc croire. Il faut croire en Christ. Et c'est ainsi que nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu, par la foi. Et ça, c'est pourquoi nous pouvons être en conversation avec quelqu'un, et quelqu'un va sortir une phrase qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit, de genre, ah oui, mais je suis athée, ça ne me concerne pas. Mais c'est totalement hors de sujet. Mais il le dit, ou bien, non, je suis musulmane, ou non, ça ne me concerne pas, parce que je suis quelque chose. Mais réfléchissant de ce qu'il dit, le Saint-Esprit convainc du péché parce qu'ils ne l'ont pas cru. Donc quand il nous sort ces phrases, c'est parce que le Saint-Esprit l'a convaincu qu'il n'a pas cru en Jésus. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire en réalité. Ils disent oui, je ne crois pas en Jésus. Pourquoi il nous le dit? Parce que le Saint-Esprit est en train de les convaincre qu'ils ne croient pas. Et donc ça sort de leur bouche une confession de la réalité de leur esprit, en fait, qu'ils ne croient pas. Et c'est quelque chose, et j'avoue aussi que j'oublie souvent quand je suis en train de parler. Quand ils me sortent ça, c'est justement pour qu'ils s'esquivent ou qu'ils se détournent. Mais pourquoi il le dit? Parce que le Saint-Esprit les convainc qu'ils ne croient pas. Et donc, ils le confessent. Oui, je ne crois pas. Et c'est souvent dans des moments où ça n'a rien à voir. Je n'étais pas en train de parler de si vous êtes un athée ou un musulman. Ou... Non, j'étais en train de parler simplement des choses de Dieu. Et puis, ils me sortent ça. C'est le signe même que le Saint-Esprit est en train de travailler. Il confesse. Je ne crois pas. Ah oui? C'est parce que il est convaincu de ce péché. Et donc c'est un bon signe finalement, pourvu qu'il ne tourne le dos et puis il parte. Et ça peut arriver aussi, ça arrive souvent, parce que ils sont convaincus et dans leur esprit, ils savent qu'ils ne veulent pas de Dieu, et donc ils tournent le dos et ils s'enfuient. Mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit justement qui travaille là-dedans. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous parlons de la justice. Parce que je viens vers le Père. Je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Alors, justice, parce qu'il s'en va. Et si on pense un petit peu à cette personne ou la présence de Christ, même quand il était là physiquement, ça peut être assez important. Justement, comme il a dit à verset 4, il n'a rien parlé de ces choses négatives quand il était avec eux, parce qu'il était avec eux. C'est-à-dire qu'ils étaient en pleine sécurité puisqu'il était là. Il y avait ce moment où il passe intouché par, au travers de la foule qui voulait lapider. Et il y avait des attaques des différentes manières, mais s'ils n'étaient pas avec eux, ça pouvait tourner vraiment mal contre eux. Mais puisqu'il était là, ils étaient toujours protégés. Donc ce n'était pas la peine qu'il le leur dit avant. J'imagine que maintenant, pendant qu'ils entendent ça, ils disent « Mais si tu m'avais dit avant !» Mais le Seigneur nous donne tout ce qu'il nous faut au moment propice. Et donc, quand Jésus était présent, il y avait des réactions extraordinaires, telles que la femme, on a lu en chapitre 8, cette femme prise dans l'adultère, il y avait déjà ces gens qui voulaient lapider. En voyant tout ce qu'il a écrit, il ne faisait rien d'autre qu'écrit sur terre. Cette présence de sa justice a chassé finalement les hommes les plus justes, entre guillemets, de la nation. Et puis, face à face avec cette dame, elle a reconnu son péché et elle s'est convertie. Nous voyons cette présence de Jésus quand il était là. On voyait, on le ressentait. Pilate aussi, un homme qui était normalement un guerrier, un homme sanglant, il faisait tout pour relâcher ce prisonnier. Mais normalement, c'est pas ça son rôle. Normalement, Pilate, il s'en fiche. Hein. Mais c'était cette justice de Christ qui touchait les cœurs susceptibles à être touchés ou enrageait les cœurs qui étaient endurcis contre Dieu. Et donc maintenant, il est à côté du Père. Et puisqu'il est à la droite du Père, le Saint-Esprit maintenant convainc les gens du péché et de la justice de Christ. Et quelle est la justice de Christ? C'est la perfection de la loi, il est le dernier Adam, il a tout accompli. Et ça c'est pourquoi, comme on a parlé il y a quelques semaines, le vendredi soir, que on peut utiliser justement la loi, les 10 commandements, pour que la conscience travaille. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre les gens de la justice de Christ. Et comment est-ce que ça peut se faire? Ben, en utilisant justement la loi, ça travaille leur conscience. Parce que la loi est faite pour nous amener à Christ. Parce qu'il est le seul qui est juste à 100%. Et le Saint-Esprit leur fait comprendre ceci. Et ça, c'est pourquoi quelqu'un qui est vraiment prêt à convertir, même si on a eu le temps de partager avec eux ou pas, ils ont ce sentiment qu'ils sont des pécheurs. Ils ont besoin d'un sauveur. Le Saint-Esprit les a convaincus de la justice de Christ. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers lui. Et troisièmement, du jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Il est jugé à la croix. Mais le monde est sous son contrôle. Il est le prince de ce monde. Et tout ce qu'on dit, tout ce que nous voyons dans ce monde est fait contre la connaissance de Christ, est fait contre les bonnes choses que nous connaissons en Christ. Dans toutes les cultures, il y a cette opposition à ce qui est bon, soit dans les bonnes œuvres, soit dans le dérèglement. Qu'importe, tant que la personne ne trouve pas Christ, c'est ça le but. Mais celui-là, il est jugé, ce malin. Alors, tournons en Colossiens, chapitre 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Voilà. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Donc c'était à la croix où il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en les triomphant d'eux par la croix. Satan n'était pas seulement jugé à la croix, il était humilié à la croix. C'était sa plus grande défaite, parce que là où il pensait tout jouer, pour tout détruire, nous voyons que Christ a tout fait pour changer le bien en mal. Et sa plus grande, entre guillemets, victoire était sa plus grande défaite. Il était humilié pour tout temps. Et donc, il y a dans l'œuvre du Saint-Esprit l'empressement dans notre cœur ou cette valorisation, voilà le mot, cette valorisation de la croix, là où le malin est jugé. Et deuxièmement, s'il est jugé là, il est sous-entendu que le jugement commence. Le jugement. Parce que le jugement, on a déjà vu ceci, mais le jugement a commencé à la croix. Parce que c'est chaque fois que l'évangile est présenté que le jugement, justement, continue. Quelqu'un qui vient à Christ par la foi, il échappe du jugement, le dernier jugement, parce que ses péchés ont été jugés à la croix. Alors que celui qui meurt dans ses péchés sera convoqué au dernier jugement. Et on ne doit pas avoir honte ou être un peu gêné par cette idée de jugement. Surtout dans notre génération où le jugement est vraiment un sujet tabou. Parce que je vous fais la référence de Actes 24, verset 25, où Paul, il parlait à Félix. Et notez ce qu'il dit, verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et l'envoya chercher Paul. Il écouta au sujet de la foi en Christ Jésus, mais Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir. Et Félix, saisi de crainte, dit, pour le moment, tu peux t'en aller. Quand je trouverai le temps, je te rappellerai. Saisi de crainte, Félix était sous la conviction, il était convaincu par le Saint-Esprit. Il parlait de la foi, donc en Jésus, s'adresse au péché qu'il a refusé. Il parlait de la justice et du jugement. Et donc, ce n'était pas la faute de Paul que Félix tourne le dos. Finalement, c'était le choix de Félix. Mais Paul, il n'a pas joué contre le Saint-Esprit, mais dans le bon sens, en suivant justement l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça nous aide justement à savoir comment prier, comment témoigner, comment œuvrer dans ce monde. Alors verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Et quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu, il vous annoncera des choses à venir. Lui me glorifiera par ce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, et tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. » Alors, il avait plein d'autres choses à leur dire, mais il ne pouvait pas encore comprendre ces choses. La tristesse, la nuit était longue, fatigue, mais il leur console avec cette idée que quand l'Esprit vient, il va expliquer toutes ces choses. Ils vont comprendre finalement. Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et il le leur donne. Et donc, le premier sens de ce qu'il dit est pour les apôtres. Parce que ce sont ces hommes-là qui écrivent par la suite le Nouveau Testament. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus, parce que de nos jours, il y a des mouvements dans l'Église où les gens disent que comme l'Esprit nous enseigne dans toute la vérité, que si quelqu'un donne une parole de prophétie, comme c'est le même Esprit, c'est l'Esprit qui donne toute la vérité, que toute la vérité n'est pas contenue dans la Bible, mais c'est une chose qui ne va pas forcément contre la Bible, mais cette parole qu'ils ont dit à la même valeur que tout ce qui est écrit, ils disent, parce que c'est l'Esprit qui a révélé ces choses à eux. Or, c'est faux. C'est faux parce que, là, dans le contexte, c'est Jésus qui parle à ces hommes-là, parce qu'ils ne pouvaient pas retenir tout ce qu'ils disaient. Et donc, pour ceux qui veulent justement se servir de ce verset, il faut qu'ils lisent tout le contexte. Est-ce qu'ils sont prêts à admettre qu'eux aussi, ils étaient affligés de cœur parce que Jésus allait être crucifié? Parce que c'est ça le contexte. Non, ces hommes-là, ils ont reçu par le Saint-Esprit une profondeur extraordinaire. Et ça, c'est pourquoi le Nouveau Testament a cette profondeur. Alors, je me demande parfois, est-ce que les apôtres ont réellement compris tout ce qu'ils ont écrit, justement? Ou est-ce qu'ils ont simplement dit ce que l'Esprit leur a dit, et tout ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus? Parce que, remarquez, 2000 ans plus tard, et il n'y a personne qui peut vraiment dire qu'il a tout compris. On apprend toujours. L'Esprit est toujours en train de nous guider. Et même les grands comme Chuck Smith, qui, quand il prêche aujourd'hui, il ne fait rien d'autre que citer verset après verset. Et puis, mais on sent la profondeur de ce qu'il dit. Si on lui demande, est-ce que tu as tout compris, tu as tout saisi? Je pense qu'il va rire justement à l'idée. Non, bien sûr que non, il n'a pas tout compris. Pourtant, le Saint-Esprit lui enseigne et lui révèle de ce qui a été dit dans l'Écriture. Et ça, c'est pourquoi le Saint-Esprit ne va jamais ajouter à ce qui a été dit, mais il va nous enseigner par rapport à ce qui a été dit. Il n'y a rien de nouveau. Quelqu'un qui a une nouvelle révélation, une nouvelle doctrine, c'est là où il faut vraiment faire attention. Parce que les choses qui sont déjà révélées sont tellement profondes. On n'a pas besoin de quelque chose. Je pense qu'on a déjà trop dans une vie. Et ça, c'est pourquoi aussi, on doit être un peu sur nos gardes chaque fois que nous voyons une réunion où c'est le Saint-Esprit qui est mis en avant. Parce que Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui va glorifier Jésus et pas l'inverse. Donc quand nous voyons une grande réunion dans un chapiteau, je sais pas, et c'est tout autour du Saint-Esprit, des prophéties et tout, on doit se poser la question, est-ce que Christ est vraiment glorifié là? Parce que quand Christ est réellement glorifié et on sort d'une réunion et on ne pense qu'à Christ et on voit que dès le début, Christ était vraiment mis en valeur et mis en avant, ça c'est un signe que le Saint-Esprit travaille réellement parce que Christ a été glorifié et élevé. Et ça c'est pourquoi nous cherchons toujours à glorifier ce que nous faisons. Comme Christ a glorifié le Père, ainsi le Saint-Esprit fait en sorte que Christ est glorifié. Et dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous ne me verrez de nouveau, parce que je vais vers le Père. Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et je m'en vais vers le Père. Il disait donc, mais que dit-il là, un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réduira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Et quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, vous avez maintenant la tristesse, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. Donc, quand il dit un peu de temps, vous ne me verrez plus, donc il parle en quelques heures, vous ne me verrez plus, et puis vous me verrez, il parle de sa résurrection, et puis vous ne me verrez plus, je vais monter au Père. Et donc, eux, bien sûr, ils ont entendu les paroles, mais ils n'ont pas compris tout le sens. Encore le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Et il faut justement qu'ils vivent tout ça. Et par la suite, ces choses vont arriver. Mais nous comprenons aussi la tristesse qu'ils ont connue, la tristesse par rapport à tout ce qu'ils ont vu. Pierre, qui a renié le Seigneur 3 fois, il pleure des larmes après. Ils ont vu leur maître, leur meilleur ami, exécuté horriblement. Ils ont vu des prodiges dans le ciel et sur la terre. Et puis, le monde, ils étaient contents, les chefs religieux. Ben, eux, ils étaient très contents parce qu'ils ont réussi à faire tuer leur plus grand ennemi, Et puis, ils ont resté cérémonialement propres pour qu'ils célèbrent la fête le soir. Malgré tout ce qu'ils ont vu cette journée, et bon, ils ont bien sûr procuré la garde pour le tombeau, et puis une fois que c'est fait, hein, c'est la fête. Il y avait beaucoup de réjouissance, et j'imagine, ce soir-là, c'était peut-être une Pâque qui était encore mieux que tous les autres, parce qu'enfin leur ennemi était mis au tombeau. Il y avait la réjouissance chez eux. Alors que ceux qui suivaient Jésus, c'était tout le contraire. Or, quand ils ont vu Jésus, et surtout après la venue du Saint-Esprit, remarquez comment l'Église s'est comportée. Ils étaient toujours ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils vivaient ensemble. Ils ont vendu leur terre, ils l'ont donné aux pieds des apôtres. Il y a même des instructions dans les épîtres de Paul et en Galates. On a cette idée aussi que les gens, ils mangeaient ensemble. Dans le livre aux Actes, il y a ça. Nous voyons que la vie de la première église était assez conviviale, assez joyeuse. Ils vivaient, ils se réjouissaient, ils mangeaient ensemble. La joie leur a été donnée par le Saint-Esprit en eux. Et parce que, en ce qui concerne les apôtres, ils ont vu de leurs propres yeux Christ ressuscité. Comme Jean a dit dans son épître, dans le préface, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, et puis ils l'ont vu ressusciter. Puis le Saint-Esprit en eux, c'était cette joie débordante, exactement comme Jésus a dit. Personne ne pouvait ôter leur joie, même Étienne. Quand on l'a lapidé, il voyait Dieu et les anges. Il y avait beaucoup de joie dans cette église. Paul et Silas chantaient des hymnes dans la prison à Philippe. Il y avait beaucoup de joie, finalement. On ne pouvait pas leur ôter ça. Et dit donc, en ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, parce qu'il était toujours là. Même avant qu'il aperçoive le besoin, ben Jésus était là. Par exemple, les millions de personnes qu'il a nourri avec les pains, qu'il a multipliés, c'est Jésus qui a vu le besoin avant eux. Il les a conduits et il a pourvu pour eux. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. C'est-à-dire que ce n'est plus cette relation où ils vont voir Jésus, mais ils prient maintenant le Père. Nous prions le Père maintenant. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. On demande maintenant. On est en contact direct avec le Père maintenant. C'est ça ce qu'il veut. Et c'est ça qui est aussi une partie de notre héritage dans Christ. Verset 25. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Rappelons dans cette période de la résurrection comment Jésus a instruit les gens. Même le petit passage qu'on a en Actes, nous voyons que c'est très direct. Il n'y a pas de parabole. Il dit non, vous serez mes témoins. Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. il ne cache rien. Il n'y a pas de parabole, non, c'est direct, ils comprennent tout à fait. Et en ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. On ressent même le sourire sur son visage. Il va rentrer chez lui, pour rester avec le Père. C'est cette même attitude que nous devons avoir aussi, ce désir pour la maison qui nous prépare, justement. Mais quand il dit que je ne demande pas le Père, en fait, il dit que non, c'est vous qui allez prier. Parce que en Hébreux 7, verset 25, nous lisons ceci concernant l'office de grand prêtre que Jésus remplit. Il dit, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu et par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça fait partie de son rôle de grand prêtre. Il intercède pour nous. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Puisque vous êtes en hébreu, tournez quelques pages de chapitre 4, verset 16, et nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » C'est ça, de venir en assurance, de confiance, parce que, comme il a dit, le Père, il nous aime lui-même, il nous aime. Et donc nous pouvons venir devant lui, confiant de son amour. Le grand problème, je crois, c'est ce problème de doute et de foi. Il faut se rappeler que la foi n'est pas la vue. Et justement, ce qui est l'obstacle pour beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent un Dieu qu'ils puissent voir, donc ils créent des idoles, finalement. Alors, ce qui se passe, malheureusement, chez les croyants, c'est que aussi, ils trébuchent sur ce même obstacle, mais dans leur propre vie. Ils voient de leurs yeux leurs propres erreurs et leurs propres manquements. Et c'est là où vient le doute. Parce qu'il se voit tellement imparfait, et c'est vrai, ils le sont, ils voient bien. Mais parce qu'ils voient ces choses, au lieu de se voir tel que nous sommes en Christ, donc rendus parfaits par la justice de Christ, ils trébuchent, ils doutent, alors que là nous voyons que l'exhortation est de venir en pleine assurance. Pourquoi? Parce que le Père nous aime, lui-même. Il faut parler à lui, lui-même, et balayer ses doutes. Il faut croire à ce que nous connaissons. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement, et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Enfin, il commence à saisir un petit peu. Jésus leur répond, « Vous croyez maintenant ? Voici l'heure vient, il est même là, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » On voit encore cette merveilleuse relation, cette même relation qu'il veut avoir avec nous. Quand même, quand tout personne nous abandonne, que nous sommes toujours avec lui et en lui. Et puis, il résume tout ce qu'il a dit depuis chapitre 13. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. C'est pour ça qu'il a parlé de l'amour, qu'il a parlé de tous ces, ces choses difficiles pour que finalement ils retrouvent la paix, parce que vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus ne cache rien. Il y aura des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il est le vainqueur. Et c'est ça notre courage. C'est ça notre consolation aussi.